Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour les nouvelles chroniques du bonheur. Comme chaque semaine confinée, je vais parcourir nos pistes de bonheur, arpenter les chemins qui mènent à la sérénité, colorer de positif l'atmosphère ambiante, parsemer d'espoir et de confiance cette période inédite. Pour cette émission numéro 4, je vais initier le thème de l'impact émotionnel de la situation actuelle, thème que je déclinerai dans les prochaines chroniques. Mais avant d'aborder chaque émotion, l'une après l'autre, et d'imaginer ensemble comment nous pouvons mieux les vivre et surtout les réguler, je vous propose de partager avec vous un texte de Sina Varzane sur les 5 phases psychologiques du confinement. Rien n'est plus étrange que ce qui nous arrive en ce moment. Nous n'avons pas de référence. Tout est de l'ordre de l'inconnu. Sauf que non. Ailleurs, d'autres ont vécu ou vivent encore, avec un peu d'avance, ce confinement. Et nous transmettent de précieux conseils sur les différentes étapes mentales de cette quarantaine. Vous allez en reconnaître les premières. La phase 1, dite phase de survie, est la plus compliquée. C'est la phase d'adaptation à ce nouveau mode de vie, teinté de panique, de mauvais sommeil. On est le plus souvent en mode réactif à regarder sans cesse les news sur l'évolution du virus. Les conseils pour cette phase, ne surtout pas passer ses journées à regarder les infos et se concentrer sur le plan de préparation de cette quarantaine. Que veut-on en faire ? Comment transformer ce temps lent en temps qualitatif ? Comment va-t-on occuper ces journées ? La phase 2 est la phase de sécurité. On s'habitue progressivement à ce mode de vie. On baisse nos défenses, on range nos placards et on commence à embrasser ce temps long. Pour cette phase, les conseils, c'est se retirer des boucles WhatsApp et autres trop intempestives. Mettre à profit ce temps pour explorer l'une de ses passions, l'une de ses activités que l'on n'a pas vraiment le temps de pratiquer habituellement. Par exemple, la cuisine. La phase 3 est considérée comme la phase d'appartenance. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Lorsque la nouvelle normalité s'installe, on apprend enfin à gérer son temps, à jongler entre travail et famille à la maison, à s'installer dans son rythme. Ce n'est pas la phase la plus facile, mais cette nouvelle norme et cet équilibre de vie inédit s'installent curieusement plutôt bien. Les conseils pour cette phase, ne plus évoquer la quarantaine comme une prison, mais plutôt comme du temps à moi, du me time. Créer un calendrier familial pour bien séparer les temps de famille et les temps de travail. Ne plus être dans l'entre-deux. La phase 4 est appelée phase de l'importance. Après avoir traversé toutes les phases précédentes, vous avez vécu beaucoup de changements en très peu de temps. Il s'agit de les mettre à profit pour une transformation potentielle. Soyez donc attentif à toutes les nouvelles idées qui pourraient naître sur votre façon de travailler, de vivre et sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Les conseils pour cette phase, maintenir le plus possible l'équilibre trouvé dans la phase précédente. Vous avez sûrement développé des relations différentes avec votre famille ou vos collègues depuis que vous avez traversé cette crise ensemble. Que voulez-vous en faire ? La phase 5, c'est la phase d'auto-actualisation. Alors que la panique ambiante et le nombre de nouveaux cas commencent à baisser, la vie s'ajuste lentement à la nouvelle norme. Restez vigilant et reconnaissant d'avoir enfin émergé, même si usé par une pandémie potentiellement dévastatrice. Prendre du recul par rapport à sa transformation. Les conseils pour cette phase, tirer parti du changement rapide pour accélérer des changements dans son style de vie, dans son travail. etc. On peut reconnaître, dans la phase de survie, la première phase, le rôle de notre cerveau reptilien, celui qui est le gardien de notre survie. Dans la phase sécurité, notre besoin de sécurité, là, c'est le cerveau limbique qui prend la main. Premier besoin psychologique, le besoin de sécurité. La phase numéro 3, comme la phase d'appartenance, pardon, c'est notre besoin d'identité, de différence et d'appartenance. La phase numéro 4, phase d'importance, où on va chercher de l'harmonie, du sens, et imaginer nos marges de manœuvre personnelles, nos initiatives individuelles. Là, c'est notre besoin de réalité d'être, pour atteindre une forme de joie, de sérénité, d'épanouissement dans la phase d'auto-actualisation dans laquelle nous allons tirer parti, nous allons explorer plutôt qu'exploiter et cultiver tous ces nouveaux apprentissages et en faire l'humus d'une nouvelle vie. Donc on retrouve aussi nos quatre dimensions, une dimension purement physique, une dimension émotionnelle, donc physique le corps, émotionnel le cœur, une dimension plus mentale, la phase d'importance, et une dimension plus spirituelle, l'auto-actualisation, sur la volonté de transformation de nos vies et de nos relations. Cela me rappelle aussi une petite information que j'ai reçue de la part du fondateur des émoticônes, un jeu de cartes que j'utilise de temps en temps avec les enfants, notamment pour les faire parler sur leurs émotions, leur faire partager leurs émotions de façon ludique et de façon déconnectée, en effet, de négativité. Et il parle des gestes barrières émotionnels à expliquer aux enfants, et on retrouve aussi les différents conseils des phases psychologiques du confinement. Alors, ces conseils s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants, mais c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir communiquer avec les enfants à travers des choses très simples comme ceci. Alors, premier geste barrière, la première barrière que nous devons mettre, c'est une barrière face aux informations, que ce soit de vraies informations qui sont déjà extrêmement angoissantes, anxiogènes, j'ai cherché le thème, ou que ce soit des fausses news qui nous submergent et qui nous font beaucoup douter des informations, y compris des vraies. Donc c'est le premier geste barrière consiste en fait à s'éloigner des infos. S'éloigner des infos, il suffit de prendre la température de ce qui se passe et des décisions qui sont prises ou des règles de vie qui ont été élaborées. Une fois par jour, cela suffit amplement. Surtout, évitons de nous mettre, nous adultes, et de mettre nos enfants face à ce flux continu d'informations souvent extrêmement négatives et pas toujours vérifiées. Le deuxième geste barrière, c'est en fait d'utiliser le soleil, c'est-à-dire d'utiliser aussi la lumière et d'offrir au minimum 10 à 15 minutes par jour dehors, si on a un balcon, une fenêtre, au mieux un jardin, sinon écoutez, sortir, profiter de l'autorisation de pouvoir sortir et profiter du soleil entre deux nuages ou entre deux averses quand ça arrive, de manière à pouvoir nourrir aussi positivement nos émotions et notre corps de vitamine D et de cette lumière aussi. Le soleil apporte de la chaleur, mais surtout apporte de la lumière, et c'est le besoin de lumière qui va aussi nous aider à aussi éclairer notre esprit. Le troisième geste barrière émotionnel, c'est-à-dire pour éviter que nos émotions nous submergent et nous empêchent comme une barrière de pouvoir vivre notre vie, eh bien c'est ne rien faire, c'est le far niente. C'est s'offrir des moments sans action, sans décision, sans mouvement, pourquoi pas, c'est-à-dire d'expérimenter vraiment le lâcher prise de manière à s'offrir des temps de simplement rien, ou de réflexion, ou de pensée. En fait, notre cerveau ne fait jamais rien, notre cerveau simplement se prépare Il combine, il synthétise, et c'est dans ces moments que nous trouvons des connexions entre différentes informations, entre différentes envies, entre différents plaisirs peut-être, et que l'on va élaborer quelque chose de nouveau. C'est à ce moment-là que nous transformons ce qu'on appelle aussi ce vide créateur. Nous sommes sans cesse en création, nous sommes des êtres créateurs, donc profitons de ces moments de rien qui ne sont pas rien, qui sont riches de possibilités. Et puis aussi, bouger chacun à sa façon. Donc ça peut être faire du sport à la maison ou dans le jardin, ou ça peut être simplement se mettre en énergie. Se mettre en énergie va aider notre corps à générer notamment la sérotonine qui va nous être utile pour nous sentir bien, pour nous sentir en forme et pouvoir passer ces moments un peu difficiles. Donc c'est vrai pour les adultes comme pour les enfants. Gardons-nous des moments pour bouger. Même les enfants les plus calmes habituellement ont aussi ce besoin de gigoter. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de ceux qui sont déjà très énergiques. Et j'en connais un à la maison. Et puis, dernier geste barrière émotionnelle que nous pouvons faire seuls ou en famille, que nous pouvons faire en adulte ou entre enfants, ou avec les enfants, c'est de faire un petit point. Finalement, chaque jour, que ce soit au moment du dîner du soir ou au moment de l'endormissement, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que cette journée m'a apporté? Qu'est-ce que cette journée m'a apporté de positif? Qu'est-ce que j'ai senti, vu, compris, ressenti comme émotion agréable? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai cherché? Peut-être que je n'ai pas encore trouvé, mais qu'est-ce qui me pousse vers un bilan, un petit bilan positif. Alors, ce que Florence Servan-Schreiber appelait les trois kiffs par jour, mais si on n'en trouve pas trois, ce n'est pas grave. C'est de se trouver, en effet, chaque journée, dans chaque journée, trouver quelque chose de positif à retenir et à garder pour soi, et pourquoi pas noter quelque part dans un petit carnet de manière à pouvoir le relire, notamment les jours où on en trouve moins, où on n'en trouve pas parce que le moral n'est pas au rendez-vous. Le fait de les relire va nous rappeler en effet ces journées un peu plus riches et nous dire finalement aujourd'hui en effet je suis passé devant une fleur et un parfum m'a vraiment titillé les narines, m'a fait du bien, ou bien j'ai retrouvé une petite note que j'avais écrite il y a quelques mois et qui me parle bien aujourd'hui, ou bien j'ai lu dans les réseaux sociaux des informations qui m'ont plu, ou une citation qui m'a touché, et c'est peut-être ça qui va faire ma journée finalement. Et toutes nos journées sont faites aussi de ces petits riens qui ne sont pas rien, de ces petits plaisirs qui deviennent des bonheurs, et de ces petits pas qui nous mènent de toute manière vers autre chose. Nous allons sortir du confinement, nous n'allons pas sortir des émotions qui sont générées par le confinement. Et la première des émotions, c'est la peur. La peur est notre émotion racine, c'est-à-dire que après la joie de la naissance et de la vie, nous avons peur parce que nous nous savons fragiles, et nous savons que nous avons besoin des adultes autour de nous lorsque nous sommes bébés pour survivre. Donc la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être, de ne pas recevoir l'attention, les soins, l'hygiène nécessaire, c'est une émotion qui est très ancienne chez nous, la peur. La peur, elle est générée par quoi ? La peur, elle est générée par un besoin de sécurité qui n'est pas nourri. Et aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, nos besoins de sécurité ne sont pas nourris, bien sûr. Pourquoi ? Parce que nous allons vers de l'inconnu. Et aller vers l'inconnu, ça fait peur. On préfère même garder du connu désagréable, douloureux, que d'aller vers de l'inconnu, même qu'on nous prévoit bien meilleur. Pourquoi ? Parce que nous connaissons notre présent, nous connaissons ce que nous avons, ce que nous possédons, et cela nous rassure. Donc nous avons besoin d'être rassurés. Être rassuré, avoir avec l'environnement. Nous avons besoin d'un environnement rassurant, donc nous avons besoin de sûreté. Cette sûreté, elle est nourrie par le fait d'avoir un compte en banque avec suffisamment pour voir venir, d'avoir un frigo qui est plein, d'avoir l'assurance de retrouver son emploi, d'avoir de quoi se chauffer ou se rafraîchir, d'avoir des vêtements, d'avoir les nouvelles de la famille, ça peut aussi nous rassurer, bien sûr, d'être sûr de se sentir en bonne santé. Parce que la moindre toux, la moindre petite fièvre, le moindre de nos réactions corporelles va forcément nous alerter. Et si nous avions contacté ce fichu virus. Donc, nous avons besoin d'être rassurés. Et qu'est-ce qui pourrait nous rassurer? Qu'est-ce qui pourrait répondre à ce besoin de sûreté? Eh bien, c'est du cadre, en fait. C'est de mettre ou de remettre des rituels en route, de manière à se redonner un cadre rassurant, un cadre connu, trouver dans ces nouvelles contraintes, trouver de nouveaux cadres qui soient beaucoup plus rassurants. Donc peut-être on a besoin aussi, dans un premier temps nous avions décalé nos horaires de repas, de coucher, de lever, etc., puisque nous n'étions plus dans les mêmes situations, les mêmes conditions. Et bien pour ceux qui ne vont pas au travail, bien sûr je m'adresse là principalement aux personnes qui sont confinées, il va falloir, pour retrouver de la sécurité, pour calmer nos peurs, retrouver du rituel, retrouver un cadre qui nous permette de nous sentir dans des limites acceptées, acceptables et surtout définies par nous-mêmes, ce qui va aussi répondre à un autre besoin qui répond aussi à notre besoin de sécurité et qui évite nos peurs, en tout cas qui évite que nos peurs aillent trop loin, c'est notre besoin de liberté. Donc nous allons pouvoir aussi trouver les moyens de répondre à nos besoins de liberté. Le besoin de liberté, c'est les besoins de liberté spirituelle, donc de croire ce que l'on a envie de croire, de retrouver cette conscience d'exister et son lien peut-être avec quelque chose qui nous dépasse, ce qui va nous permettre de nourrir ce besoin aussi de liberté spirituelle. Ça va être aussi la méditation, ça va être aussi le yoga ou d'autres pratiques qui vont nous permettre de nous reconnecter avec notre être un peu plus profond. Pour certains, ça peut être aussi la religion, mais je rappelle en effet que spiritualité et religion sont quand même deux choses très différentes. Et pour nourrir ce besoin de spiritualité, voilà, on peut être dans l'ascèse ou dans la prière, on peut être aussi dans la contemplation, mais comme on peut être aussi dans la méditation, une méditation bouddhique ou une méditation laïque, hein, comme la méditation en pleine conscience, hein, par exemple, ou bien des pratiques aussi comme le tai chi, le qigong, des approches comme la relaxation ou la sophrologie vont nous aider à retrouver voilà cette liberté spirituelle, c'est-à-dire comment on peut s'élever même si on est dans un cadre qui est contraint. Ça peut être bien sûr la liberté de penser, ça veut dire aussi d'être capable de pouvoir exercer son libre arbitre et de distinguer le vrai du faux dans toutes ces informations qui nous inondent. Donc déjà limiter le nombre d'informations, partir du principe que voilà, il y a des informations qui sont officielles, même si venant de scientifiques, la science elle est remise en cause chaque fois qu'on avance, mais au moins on a des informations qui sont beaucoup plus fiables que celles qui viennent par les réseaux sociaux. Je suis à chaque fois ébahi par les informations reçues, y compris de personnes que je considère comme étant extrêmement réfléchies, qui pensent énormément, qui me semblaient peu sensibles voilà, à toutes ces fake news, et pourtant elles les transportent et les transmettent. Donc voilà, donc cette liberté de penser, c'est très important de l'exercer, de croiser des informations, et puis voilà, de se garder un peu de distance par rapport à tout ça. Liberté de parole, bien sûr, donc se sentir aussi libre aussi d'exprimer ce qui va, ce qui ne va pas, que ce soit auprès de nos proches ou auprès d'autres instances. et puis liberté de mouvement. Donc, trouver à l'intérieur de ce confinement, trouver à l'intérieur du cadre qui est le nôtre, y compris pour les personnes qui travaillent et qui doivent prendre les transports en commun, la boule au ventre, ou pour les personnes qui vont tous les jours soigner nos anciens, nos malades, et qui vont aussi au devant, sont sur le front du risque, et tous ceux qui s'occupent aussi de nos réparations, tous ceux qui s'occupent de notre entretien, tous ceux qui s'occupent de nos poubelles, etc. Donc je pense à eux aussi, qui vont vivre cette peur et qui vont aussi limiter leur liberté de mouvement. Donc trouver à l'intérieur des contraintes que l'on nous impose notre propre liberté, nous organiser tout en respectant un cadre qui va mettre une distance sociale. Soit nous devons respecter une distance pour que nos gouttelettes qui sont potentiellement chargées de virus n'atteignent pas l'autre, mais un sourire n'a jamais transporté de gouttelettes, et je pense que même si l'on porte un masque dans les yeux, nous pouvons voir le sourire de l'autre, et ça c'est toujours un petit cadeau, voilà, un petit cadeau que nous pouvons nous faire dans le présent. Donc c'est bien normal, c'est bien naturel de sentir de l'inquiétude, de la crainte, de se faire du souci, du tracas pour nos proches. Certains ont pu être touchés ou risquent d'être touchés par la maladie. Donc que cette crainte, que cette inquiétude, par contre, ne se transforme pas en anxiété, en angoisse, en panique, en terreur. C'est la régulation de cette peur, et pour réguler cette peur, l'idéal en effet est de travailler à la fois sur ses besoins de sûreté. Quel cadre je vais maintenant m'octroyer, qu'est-ce qui va me rassurer dans les limites, et de toujours respecter aussi son besoin de liberté. Il est temps pour moi de partager avec vous un conte. C'est un conte Peul, un conte africain, tiré d'un livre d'Amadou Ampateba, Petit Baudiel et autres contes de la savane. Il s'intitule « Le mensonge devenu vérité ». Un jour, une hyène, furetant aux abords d'un village, trouva un chevreau mort. Tout heureuse, elle le ramassa, s'éloigna du village et le traîna dans un bosquet pour y faire tranquillement ripaille. Mais au moment où elle s'apprêtait à manger, elle aperçut au loin un troupeau d'hyènes qui venait droit sur elle. De peur que ses congénères ne lui ravissent son déjeuner, elle se hâta de cacher le chevreau, puis vint s'installer au bord de la route. Là, elle se mit à rôter et à bâiller bruyamment. Les coureuses s'arrêtèrent. « Eh bien, hyène sœur, qu'y a-t-il ? Courez vite au village ! Tout le bétail est mort et on a jeté les cadavres dans le village d'ordures. Je me suis bien régalé. Maintenant, je rentre tranquillement dormir chez moi. » À cette nouvelle alléchante, la troupe d'hyènes fonça vers le village avec une telle ardeur qu'elle souleva sous ses pas un véritable nuage de poussière. Contemplant ce spectacle, l'hyène se dit « Voilà que mon mensonge est devenu vérité, car jamais un mensonge à lui seul ne pourrait soulever un tel nuage de poussière. Courons vite, c'est devenu la vérité, c'est devenu la vérité !» Et laissant là son chevreau, elle fonça à son tour vers le village. Telle est la force du mensonge, qu'à force d'être répété, un beau jour, le menteur lui-même finit par y croire. C'était Jean-Marie Marcos pour les Nouvelles Chroniques du Bonheur. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Et aujourd'hui, c'est un titre cher à mon cœur, en liaison avec le thème du jour. Et c'est un titre du groupe Odyssée. Et ce titre, c'est « Lion ». Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.